La parole du jour avec le Père Willem.
Ils ont résisté à la barbarie nazie. Le Troisième Reich d'Adolf Hitler fut la tyrannie la plus populaire du XXe siècle. Des millions d'Allemands liesse applaudissaient, tandis que des dizaines de milliers de gens, puis des millions et finalement la plus grande partie de l'humanité, étaient plongés dans la souffrance et l'inquiétude. Le régime national-socialiste put se targuer de succès économiques rapides, d'une puissance et d'un prestige recouvrés, avant de se dissoudre dans une barbarie satanique. La pompe publique des nazis s'est toujours accompagnée de violences en coulisses, et nous devons bien comprendre la rouerie avec laquelle ils ont persuadé le peuple allemand de soutenir leurs actions tout en les intimidant par la terreur, la torture, le meurtre. C'est une leçon de choses sur l'utilisation du pouvoir au service du mal. Rares furent ceux qui osèrent affronter les périls pour se dresser contre un tel régime. Encore plus rares ceux qui le firent au nom du caractère sacré de la loi et de la foi. Au cours de nos émissions, nous traiterons de la vie et des actes de deux hommes admirables qui, dès le début du Troisième Reich, ont fait tout leur possible, chacun à sa manière, pour combattre les atrocités nazies et ont ensuite échafaudé une conspiration pour renverser le tyran. L'un, Hans von Danzig, avocat, est presque inconnu hors d'Allemagne. L'autre, son beau-frère, Dietrich Bonhoeffer, un pasteur, jouit d'une grande célébrité. Il y a aussi Christine, sœur de Dietrich et femme de Hans. Le 5 avril 1943, la Gestapo les arrêta tous les trois. Le brave et talentueux avocat qui, en tant que membre haut placé du service de contre-espionnage de l'armée, était devenu une figure majeure de la branche civile du complot contre Hitler. L'énergique et fervent jeune pasteur, qui depuis une décennie luttait contre les idées et pratiques raciales des nazis au sein des églises protestantes d'Allemagne, lesquelles étaient presque complètement dénuées d'opposants de principe à la dictature impie d'Hitler, et la femme qui inlassablement aidait son mari et son frère, tous trois étaient unis par des liens de droiture et de courage qui constituaient par eux-mêmes le roc sur lequel put se bâtir la résistance à la tyrannie. Christine fut relâchée un mois plus tard, mais les deux hommes ne furent jamais libérés. Ils passèrent 2 ans en prison, soumis aux pires conditions et à des interrogatoires humiliants. Puis ils furent exécutés sur ordre express d'Hitler en avril 1945, quelques semaines seulement avant le suicide du Führer et la capitulation de l'Allemagne. Parmi ceux qui se sont opposés dès le début à la dictature d'Hitler, horrifiés avant tout par ses violations du droit et de la morale, ce fut l'indignation croissante à l'encontre des atrocités commises contre les Juifs qui motiva principalement la décision de lui résister et finalement d'essayer de l'éliminer. Les conspirateurs savaient des vérités innommables sur ce qui se passait et que beaucoup de gens ignoraient et préféraient ignorer, non seulement en Allemagne, mais dans le monde entier, et ils étaient prêts à passer à l'action. Ces résistants n'étaient pas nécessairement des amis des Juifs. Il est même probable que peu d'entre eux le furent. Certains avaient sans doute des relents de préjugés chrétiens ou des sentiments allant de la réserve à la répulsion à l'égard des Juifs en général et des Juifs allemands, si prospères et ambitieux en particulier. De tels sentiments étaient largement répandus chez certains Juifs eux-mêmes et de nombreux gentils ailleurs en Occident. Toutefois, le fait de voir l'État prendre des mesures discriminatoires à l'encontre des Juifs et d'assister au début de leur ghettoïsation souleva un mouvement de soutien et de sympathie envers les Juifs chez bien des membres du cercle de Bonhoeffer. Ils comprenaient instinctivement que les Juifs étaient dépouillés de leur dignité, puis de leur existence même, dans des atrocités barbares qui se termineraient par une catastrophe inconnue depuis la guerre de 30 ans. Pour beaucoup, la bestialité organisée était également un outrage à Dieu qui ferait peser à jamais sur le compatriote le fardeau de la culpabilité. La perversion du leadership débuta presque immédiatement après la désignation d'Hitler comme chancelier par le maréchal Hindenburg. Un écran de fumée de rectitude de l'État prétend démasquer les nombreux actes illégaux des nazis. De plus, Hitler et ses chefs savaient improviser habilement et sans aucun scrupule, exploitant sur le champ, disons le 27 février 1933, l'incendie du Reichstag, ils firent adopter par le président Hindenburg une législation d'exception suspendant les libertés individuelles élémentaires garanties par la Constitution de Weimar. Au bout de seulement 30 jours de règne, Hitler pouvait ainsi, en toute légalité, non seulement écraser ses adversaires politiques et les placer en détention de protection, un euphémisme nazi pour l'emprisonnement est bien pire, mais intimider la population générale et répandre la violence dans les rues et au sein des rassemblements, fouiller maisons et bureaux, intercepter le courrier, placer la communication téléphonique sur écoute et museler la presse par intermittence. Dans ce climat bouleversé et lourd de menaces, les Allemands se rendirent aux urnes le 5 mars suivant pour ce qui devait être leur dernière élection libre. Les nazis obtinrent un peu moins de 40% des voix, atteignant presque la majorité avec leurs alliés conservateurs. Une semaine plus tard, un grand spectacle monté à l'église historique de la garnison de Hohenzollern à Potsdam mettait en scène Hindenburg et Hitler se rendant hommage l'un à l'autre. C'était l'apparente union des vieux conservateurs avec la cause juvénile d'une renaissance de l'Allemagne. Malheur aux incroyants, des milliers de personnes eurent au fait d'être arrêtées. Et quand la presse couvrit l'ouverture d'un camp de concentration à Dachau, près de Munich, pour les prisonniers politiques, les articles s'accompagnèrent de photographies officielles de politiciens éminents de Weimar en costume de prisonniers en train d'être rééduqués. Les nazis subordonnèrent rapidement toute activité publique à leur bon vouloir. Cette infâme mise au pas remporta, hélas, un succès foudroyant grâce à l'appui ou à la soumission générale de la population et à sa peur de la terreur. »